Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h19 sur Europe 1, c'est l'heure de votre débat du Club des Idées. Et vous savez qu'on aime dans ce débat se donner du temps, prendre le temps de s'intéresser à des sujets de société comme l'intelligence artificielle, par exemple, la semaine dernière, mais aussi revenir sur le parcours de femmes ou d'hommes qui ont marqué notre histoire avec un grand H. Dans ce monde où tout va très vite, c'est notre façon d'appuyer sur pause le temps d'un instant, d'aller chercher dans le passé des enseignements, des leçons de vie, de s'appuyer sur notre histoire pour éclairer notre présent. Et ce soir, comme on a pu le faire il y a quelques semaines, vous vous en souvenez sans doute avec le général de Gaulle ou bien avec François Mitterrand, on a choisi d'évoquer une figure de la vie politique française de l'entre-deux-guerres et du socialisme, Léon Blum, grand homme d'État qui, dans la mémoire collective, est avant tout associé au Front populaire, au congé payé, qui est devenu la référence incontournable de la gauche actuelle, mais dont l'affiliation est aussi parfois revendiquée à droite. Et pour vous dire toute la vérité, si on a eu envie de parler de Léon Blum aussi ce soir, c'est parce qu'un livre formidable qui lui est consacré vient de sortir, livre que vous avez écrit. Bonsoir Frédéric Salabarou.
Bonsoir.
Vous étiez secrétaire général de la présidence de la République sous Jacques Chirac, ancien conseiller d'État, avocat et donc passionné d'histoire. Votre livre s'appelle Blum, le magnifique, du juif belle époque au leader socialiste. C'est aux éditions de l'Observatoire. Mais des livres sur Léon Blum, il n'y en a pas qu'un seul. Hein. Et vous évoquez, vous aussi, Léon Blum, Jean-Noël Jeannenet. Bonsoir.
Bonsoir.
Dans Le Rocher de Susteen, mémoire 1942-1982, qui est paru l'été dernier, je crois, aux éditions du Seuil. Vous êtes historien, passionné par la politique, auteur du documentaire Léon Blum ou la fidélité et de la pièce L'un de nous deux qui retrace la vie de Léon Blum et de Georges Mandel.
Pas la vie, un dialogue entre eux à Buchenwald au moment de leur prison.
Voilà, j'ai résumé un tout petit
44.
Peu. J'ai également la chance d'avoir à mes côtés ce soir Antoine Malamou qui est l'arrière-petit-fils de Léon Blum. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du conseil d'administration de la maison Léon Blum. Vous avez collaboré à un documentaire sur Léon Blum en 2020 et vous avez préfacé, je crois, aussi plusieurs biographies et thèses qui lui sont consacrées. Un grand merci donc à tous les trois de m'accompagner ce soir. D'abord, Frédéric Salabarou, vous, l'homme de droite, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur Léon Blum ?
Bon, moi, je n'étais pas dans une logique, c'est pas une logique droite-gauche. Je m'intéresse à l'histoire, je m'intéresse à l'identité nationale. J'avais commencé par travailler sur le général de Gaulle et Pétain, leur relation. Et Blum m'intéressait par ce qu'il incarne, cette passion de la justice qui est qui transcende la droite et la gauche et qui fait partie de notre identité nationale. Et pour moi, De Gaulle et Blum, quelque part, se répondent dans ce qu'ils disent de la nation. Et donc, ça m'est paru pas du tout anormal de passer de l'un à de l'autre. Je crois qu'au même titre que le général De Gaulle n'appartient plus même au gaullisme. Blum appartient évidemment à l'histoire de la gauche, mais il appartient aussi à notre identité, à l'histoire française. Et puis c'est sa personnalité aussi, on y reviendra, qui pour moi est le fil directeur. Ce qui m'a intéressé, c'est Blum avant Blum, c'est-à-dire la façon dont cet homme qui, au démarrage, pensait littérature, aurait sans doute voulu être un écrivain, va petit à petit, de métamorphose en métamorphose, devenir l'homme de fer du socialisme, celui qui va faire, excusez du peu, face à Lénine au moment du congrès de Tours, en posant les bons diagnostics sur le bolchevisme. Donc c'est aussi ce parcours qui permet aussi de voyager dans cette belle époque, à la fois bien nommée et si mal nommée, qui va conduire à la guerre. Donc c'est en le suivant qu'on découvre énormément de choses sur la France.
Alors, on va revenir sur la carrière, bien sûr, et sur le parcours de Léon Blum. Jean-Noël Jeannenet, vous avez baigné dans la politique toute votre enfance. Votre grand-père fut le dernier président du Sénat de la Troisième République, votre père ministre du général de Gaulle. Vous aussi, vous avez une curiosité, vous portez un intérêt particulier au parcours de Léon Blum, et vous aussi, vous êtes attaché à l'homme derrière la personnalité politique.
En effet. Et quand vous m'avez invité, j'ai songé que, à propos de ce livre de mémoire que vous évoquez, j'ai rencontré, je le raconte, beaucoup de personnalités fortes, Saint-Jean-Perse, Ben Bella, De Gaulle, Mitterrand et beaucoup d'autres. Léon Blum est le seul, au fond, que pendant cette période, j'ai rencontré à titre posthume, puisqu'on m'avait demandé de faire ce premier documentaire en 1973 sur lui. Donc je l'ai fréquenté de cette façon un peu étrange, un peu distanciée, mais qui n'a fait que renforcer pour moi considération, attachement et presque une sorte d'affection après coup pour un personnage dont je ne fais pas un saint de vitrail, naturellement, mais qui me paraît être une des figures vraiment lumineuses de notre XXe siècle politique.
Antoine Malamou, je rappelle que vous êtes l'arrière-petit-fils de Léon Blum. Ça vous fait quoi, des années plus tard, d'entendre ce qu'on vient d'entendre, qu'on écrive encore sur votre arrière-grand-père, qu'il y ait cette admiration pour certains? Il était bien plus qu'un homme politique, c'est peut-être aussi ce qui fait sa différence des autres hommes politiques?
Je ne sais pas s'il était bien plus qu'un homme politique, enfin il était certainement bien plus qu'un homme politique, mais pour moi, j'ai baigné dans mon enfance, dans le souvenir et la mémoire de Léon Blum. Mes grands-parents, c'est-à-dire son fils unique et ma grand-mère, ont porté l'association des Amis de Léon Blum, qui a publié ses œuvres, etc. Et ensuite, j'ai été jeune étudiant d'ailleurs de Jean-Noël Jeannet, contemporain de la première biographie de Léon Blum, importante, celle écrite par Jean Lacouture, et qui m'avait fait l'honneur de demander un peu d'aide, de documentation et de recherche pour lui. Et ensuite, eh bien, j'ai toujours continué à œuvrer pour la mémoire, le souvenir de Léon Blum, soit en participant à des réunions, en écrivant, en répondant à des chercheurs, en écrivant quelques préfaces ici et là, et en collaborant avec un chercheur et cinéaste américain à un film en 2010. Et donc, je suis très heureux qu'il y ait cette permanence, cette continuité de la mémoire et cette continuité à la fois de recherche universitaire et de présence politique sur l'œuvre et la vie de mon aïeul.
Alors, je vous propose qu'on poursuive ce débat dans un tout petit instant. On va se rafraîchir la mémoire parce qu'on en a bien besoin. Léon Blum, sa vie, son œuvre, son héritage aussi. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Et on continue ce soir sur Europe 1 à parler de Léon Blum, cette figure du socialisme, l'homme du Front Populaire qui a suscité des passions contradictoires. Beaucoup revendiquent son héritage ou en tout cas une partie qu'incarne Léon Blum aujourd'hui. On en parle avec l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, ancien conseiller d'État, l'avocat Frédéric Salabarou, avec également Antoine Malamou, l'arrière-petit-fils de Léon Blum, qui est avec nous dans ce studio, également avec moi l'historien Jean-Noël Jeannenet. Alors je voudrais qu'on se rafraîchisse un petit peu la mémoire, si vous le voulez bien, parce que pour moi, comme pour beaucoup de nos auditeurs, j'imagine les cours d'histoire sont parfois un petit peu loin, trop loin. Léon Blum, on le disait, a marqué la vie politique française et pourtant, au tout début, rien ne le destinait à cette vie politique. Né en 1872 dans une famille juive alsacienne, comment ce jeune homme issu de la bourgeoisie qui se destinait à une carrière de haut fonctionnaire et d'écrivain s'est-il transformé en leader politique? Quel a été le déclic, Frédéric Salabarou?
Je crois que rien ne le destinait et il était dès le début destiné à ça. Les déclics, on les connaît, c'est évidemment l'engagement dans l'affaire Dreyfus, hein, qui est un choc fondamental, la rencontre avec Jaurès, qui va être avec Lucien R, celui qui va l'initier au socialisme, et puis ensuite les événements, l'assassinat de Jaurès, la nécessité de reprendre le flambeau. Donc, tout ce qui marque des étapes de cette vie qui ne le préparait pas à ça, vers l'engagement socialiste. Mais ce qui est très intéressant, et moi je cite souvent cette anecdote qui dit tout au début. Léon Blum donc, est avec Gide au Quartier Latin, ils ont 18 ans, ils se promènent, ils échangent les derniers poèmes de José María de Heredia, et puis à un moment, Blum disparaît. Gide le cherche, le voit revenir, et il lui dit, tu vois la personne là-bas qui mendie, il ne fallait pas lui donner quelques sous, il fallait acheter le produit de son travail, acheter ses journaux, c'est une question de dignité. Donc il y a dès l'origine quelque chose de fondamental, une sincérité dans la conviction que la valeur fondamentale est la justice. Et ensuite, effectivement, c'est une vie de métamorphose. A priori, c'est même un mystère. Comment cette personne qui a toujours vécu comme un homme libre. Moi, ce qui me passionne chez lui par rapport à d'autres politiques, c'est quelque part, je ressens une hiérarchie qui est l'amour d'abord, la littérature ensuite et la politique enfin, mais enfin, a pu faire ce parcours. Et je crois que c'est lié à une passion au départ pour la justice, une capacité d'admiration, comme il a su admirer Jaurès. Et je crois que c'est important, vous disiez, par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui où tout est négatif, tout est critique, tout est suspicion. Il nous envoie aussi un message en se posant disciple de Jaurès, alors qu'il aurait pu, comme Clémenceau, dire à quoi reconnaît-on une phrase de Jaurès, c'est que tous les verbes sont au futur. Il se pose en disciple et à ce moment-là...
Et même en fils spirituel, quasiment.
Il se pose en disciple, en fils spirituel, et à ce moment-là, il acquiert une formation en socialisme qui va lui permettre, à partir de 1914, de pouvoir complètement se transfigurer. Et donc, il y a les événements, l'assassinat de Jaurès. Il y a l'importance aussi du deuxième grand amour de Léon Blum, qui est Thérèse, qui va lui apporter quelque chose de fondamental. Elle va lui faire comprendre qu'il a l'étoffe d'un chef. Et donc, ces métamorphoses successives vont amener Léon Blum à réaliser ce qui est probablement essentiel déjà en lui, c'est-à-dire l'exercice politique pour incarner et pour faire vivre les valeurs de justice.
C'est intéressant ce que vous disiez sur Jean Jaurès, dont il fut le disciple et même le fils spirituel, Jean-Noël Jeannonet, mais il n'a pas voulu se borner à être un héritier. Hein.
En effet, je suis moins sensible peut-être à l'idée de la rupture que vous évoquez entre l'homme de lettres, le normalien, bref normalien, le juriste, le critique remarqué du théâtre et de la littérature et son action politique. Je crois qu'on peut trouver une fidélité.
Absolument.
Une fidélité et d'une certaine façon une continuité. L'importance de l'affaire Dreyfus, vous l'avez dit, c'est-à-dire la défense de la justice contre la raison d'État.
Il avait 26 ans, marqué, je crois, quand J'accuse d'Émile Zola a été publié.
Oui, qui a marqué toute une génération. Ensuite, son entrée au cabinet d'un ministre de l'Union sacrée, Marcel Samba, qu'il a installé pour la première fois au cœur de la
vie. Lui aussi, grand amateur de littérature.
Mais si j'avais à résumer, je dirais que d'une certaine façon, encore une fois, sans vouloir en faire un personnage libre de toute erreur ou de toute faute, exempt de trébuchement, je dirais qu'il est marqué par une sorte de, comment dire, une fidélité qui s'appuie sur du courage. Ou une fidélité à ce qu'il a voulu être à l'origine, à la continuité d'une adhésion aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, mais pas de façon, pas lancée en l'air, comme concrètement, assurément. Ça, c'est une chose qui est très frappante dans son destin, et le courage. Le courage qu'il lui a fallu, parce qu'il faut toujours du courage en politique dans les moments difficiles, quand on se porte à l'avant-garde des batailles pour le bien et pour la justice. Mais il lui en fallait encore davantage, étant donné ce qu'a été l'antisémitisme dans ces moments-là. On a peine à comprendre et à savoir ce qu'était la haine que suscitait un juif comme lui entré dans la bataille. On peut citer
antisémitisme qui a failli lui coûter la vie. On peut peut-être le rappeler pour les gens
le 13 février 1936, en effet, où il s'est trouvé mêlé aux obsèques, au convoi des obsèques d'un grand historien de droite, Bainville, proche de l'Action française, et où effectivement
il est agressé par des nationalistes d'extrême droite.
Oui, ils l'ont frappé, etc. Donc il y a eu ça, mais il y a eu chez lui constamment une volonté de tenir bon, de tenir droit. Vous savez, s'il y avait eu les réseaux sociaux à l'époque, ce serait absolument terrifiant. La haine qui s'est, je crois qu'il faut le rappeler aujourd'hui, la haine qui s'est dirigée contre cet homme venu de l'Action française, pensez Charles Maurras, qui a inspiré tant de bons esprits à droite, l'Académie française et ailleurs, qui disait c'est un homme à fusiller, mais dans le dos, vous avez bien un couteau de cuisine. Encore une fois, imaginez sur Internet aujourd'hui, où en plus on n'est pas obligé de signer ce qui se passerait. Voyez son courage aussi pendant la guerre, où il a été en effet jeté par le régime infâme de Vichy dans les mains de l'Allemagne, il est allé près de Buchenwald. Il est échappé par miracle, courage qu'il a fallu à cet égard. Et aussi son courage sous la 4e République,
oui.
Où il a été au dernier moment de sa vie capable de diriger un gouvernement, d'appuyer les institutions encore tremblaient. Je ne suis pas sûr qu'il avait raison de les approuver, mais c'est une autre affaire.
En tout cas,
qui a été jusqu'au bout, je termine jusqu'au bout, oui. Jusqu'à sa mort en 1950, une figure de patriarche respecté, honoré, regardant un peu de haut, mais ne détestant pas s'en mêler, la vie politique française.
Antoine Malamou, ça doit vous faire plaisir d'entendre tous ces compliments sur votre arrière-grand-père, sur son courage.
Mots-clés qui ont été prononcés, l'un par Frédéric Salabarou et l'autre par Jean-Noël Jeannonet, c'est dignité d'une part, courage de l'autre. En fait, ce qui ressort, ce qui me semble, moi, être une constante et qui permet de justifier la place que Léon Blum occupe encore dans la mémoire populaire et dans la mémoire politique et dans la mémoire nationale, je distingue bien ces trois catégories de mémoire, c'est trois vertus. C'est d'une part le courage, et ça, Jean-Noël, vous l'avez bien décrit, et c'est un courage personnel, un courage physique, un courage politique. La véracité, quelles que soient les conditions politiques ou historiques, Léon Blum disait ce qui lui semblait vrai et juste. Le congrès de Tours en est un exemple particulier, mais on pourrait les multiplier.
Le congrès de Tours, toujours pour rappeler...
Le congrès de Tours,
rappeler,
qui est le congrès,
qui marque la scission
de décembre 1920, qui est
la
scission entre le Parti communiste et le Parti socialiste, enfin la scission du mouvement socialiste en deux parties, le Parti communiste et le Parti socialiste. Et la troisième vertu, moi, quand j'en parle, je l'avais mis sous le nom de probité, mais en fait, on peut l'étendre un peu au nom de dignité, le mot de dignité. Effectivement, Léon Blum a été accusé de tas de choses, de calomnies antisémites, etc. Et puis aussi de calomnies ridicules, la vaisselle en or, l'enrichissement, le ceci, le népotisme envers son fils, choses qui ont été chaque fois démenties, battues en brèche, explosées en vol, si je peux me permettre des expressions un peu triviales. Et donc là, c'est la probité. Mais en fait, c'est aussi la dignité permanente dans toute sa carrière et sa dignité humaine qui vient du fait que ça n'est pas un politicien au sens d'un homme politique, mais que c'est un intellectuel en politique. C'est quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, qui a été une vie d'intellectuel, choisit ou est contraint par les événements ou poussé par les événements, à rentrer en politique. Mais ça n'est pas quelqu'un qui a conçu sa vie depuis son plus jeune âge, depuis sa formation.
C'est exactement ce que vous expliquez également dans votre livre, Frédéric Salavarou. Il n'avait pas l'ambition au départ d'être forcément un grand homme politique.
Il est probablement un des rares hommes d'État qui le soit devenu sans l'avoir voulu. Et puis, il y a de la modernité chez Léon Blum. Par exemple, on le dit assez peu, mais c'est probablement le premier des féministes. C'est très intéressant parce que, d'abord, il avait un rapport avec les femmes qui était très profond. Elles étaient d'abord ses amies. Il les considérait profondément comme des égales, avant d'être évidemment des amours pour lui. Il avait écrit en 1907 ce livre du mariage, qui est un livre à scandale, où, excusez du peu, il disait dans cette société bourgeoise complètement corsetée, la femme a droit à l'égal de l'homme au plaisir. Donc il avait...
Avant le mariage, ce qui est important.
Avant le mariage, c'était une révolution de dire des choses comme ça à cette époque.
Et donc, cette espèce de sincérité, d'égalité, de sensualité dans cette relation qu'il avait avec les femmes qui était profonde, il va le traduire en acte politique. Quand il devient chef du gouvernement, avant même qu'elles aient le droit de vote, il va faire rentrer trois femmes à son gouvernement, et notamment Irène Joliot-Curie, qui va devenir prix Nobel de physique, avec la symbolique, c'est-à-dire la femme est aussi capable d'incarner la science. Et donc là, on voit que très très longtemps avant, et avec une sincérité extrême, sans calcul, toujours avec cette idée de profondeur des sentiments, il est certainement le premier homme politique français, premier des féministes.
Alors justement, puisque vous parliez de son action politique, de la formation de son gouvernement, 1936, année capitale, évidemment, victoire du Front populaire aux législatives, et quelques mois plus tard, donc, élection de Léon Blum à la présidence du Conseil. Et là, les choses ne traînent pas. C'est ça aussi qui est assez extraordinaire dans son action. Quelques jours à peine après son élection, il met en œuvre des réformes capitales, les congés payés, la réduction du temps de travail avec la semaine de 40 heures, la reconnaissance du droit syndical, l'établissement des conventions collectives, les délégués effectivement du personnel. C'est un bouleversement qui l'amène à la société française. En l'espace d'un an, il la transforme radicalement, Jean-Noël Jeannenet.
Radicalement, c'est beaucoup dire, mais il fait, en effet, il lui fait passer un moment important et accomplir un pas important vers une modernité sociale et un recul d'une société qui était encore profondément inégalitaire. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est sûr.
Et c'est aussi le grand bourgeois qui reconnaît le prolétarisme français en lui offrant des vacances, non ?
C'est un grand bourgeois. La plupart des hommes publics qui ont fait progresser la société ne venaient pas effectivement de l'usine ou de l'atelier. Il avait ceci d'ailleurs de... On insistait sur ses relations avec son goût de la culture, son imprégnation profonde. Mais en réalité, si vous regardez les grands hommes d'État français du XXe siècle, c'était le cas de tous. Aucun n'était illettré ou naturellement illettré, mais aucun n'était exempt d'une vraie culture profonde. Je n'ai pas besoin de citer les gens. Ça fait partie, en vérité, pour un homme d'État, me semble-t-il, du tuf sur lequel, forcément, il doit construire son action. C'était éminemment le cas de Léon Blum. Mais en même temps, il se voulait journaliste. C'est intéressant de le rappeler. Quand il a été un magnifique représentant du droit et de la justice au procès de Rion, c'est un procès où le régime de Vichy l'avait de façon inique traîné. Il a été si brillant dans sa défense qu'on a été obligé de suspendre le procès. Eh bien, il a été là, on lui a demandé quelle était sa profession, Il n'a pas dit conseiller d'État, il n'a pas dit écrivain, il n'a pas dit homme public, il a dit journaliste. Et aujourd'hui encore, j'y invite nos auditeurs, lorsqu'on parcourt en bibliothèque ces articles à tel ou tel moment de notre histoire politique et qu'on regarde la façon dont il s'est exprimé, c'est toujours très intéressant. On n'approuve pas toujours, parfois il s'est trompé. Il y a un domaine où il n'a pas vraiment, à mon avis, excellé, c'est une réflexion sur la stratégie de la France dans les années 1936-1940 en particulier, sur une évolution nécessaire du projet militaire en face de l'ennemi qui s'annonçait comme ravageur.
Alors, on va y revenir sur tout ça. Je voudrais qu'on écoute quelque chose ensemble. On a retrouvé une archive de Léon Blum. C'est assez exceptionnel. Écoutez, nous sommes le 1er décembre 1929.
De quoi est né le socialisme ? De la révolte des plus nobles sentiments de l'âme humaine, blessée par la vie, méconnue par la société. Le socialisme est né de la conscience de l'égalité naturelle, alors que la société où nous vivons est tout entière fondée sur le privilège.
Il est là le socialisme de Léon Blum, profondément humaniste. Antoine Malamou, je rappelle que vous êtes son arrière-petit-fils.
Le texte qu'on vient d'entendre, c'est les premières pages, les premières phrases d'une petite brochure qui s'appelle « Pour être socialiste » et que Léon Blum a écrit en 1920 à destination de son fils qui avait à l'époque 18 ans et qui était une brochure de popularisation des idées socialistes aussi bien sur le plan économique, sur le plan des rapports, on peut le dire, des rapports de classe sociale, parce qu'il avait tout de même une imprégnation de culture marxiste sur quelle était la production, le rapport entre la bourgeoisie et le prolétariat, etc., mais élargi à cette vision humaniste sur la place du loisir, la place de la santé, le rôle que la jeunesse a à avoir dans le développement dynamique de la société, etc. C'est un petit texte qui fait quoi, 40 pages, et qui est d'une actualité brûlante, enfin, aujourd'hui encore, si on le débarrasse un peu de ses tournures de phrases séculaires.
C'est vrai ce que vous dites, il est encore complètement d'actualité. Léon Blum, d'ailleurs, sa figure, elle est invoquée par, aussi bien par François Hollande que par Nicolas Sarkozy ou par Édouard Philippe, même récemment. Je voudrais qu'on écoute ce que disait François Hollande en 2012 en meeting pour la présidentielle.
La grandeur de l'histoire, c'est Léon Blum qui, avec le Front populaire, a permis à tous les travailleurs de France de relever la tête et de partir enfin en congé.
Frédéric Salabarou, elle est naturelle, cette filiation, pour la gauche ?
Je pense que c'est absolument une des très grandes figures de la gauche. Avec Jaurès, Blum incarne la synthèse socialiste française, c'est-à-dire à la fois l'héritage de la Révolution, effectivement, comme ça a été dit, une tradition marxiste qui est très importante pour l'époque, et tout ça dans une logique qui est profondément humaniste. Et quelque part, les mois de pouvoir lors du Front populaire symbolisent ça. C'est-à-dire c'est un moment d'avancée. Ce n'est pas la révolution telle qu'on pouvait l'espérer à l'époque, mais c'est des avancées qu'aujourd'hui, personne ne voudrait contester. Elles font partie, évidemment, de notre socle commun. Et c'est des avancées qui sont fondamentales. Et avec ce que vous avez dit, qui me paraît aussi très intéressant, c'est-à-dire qu'il a rajouté des choses qui n'appartiennent qu'à lui. Il avait le goût de la littérature, il avait le goût de la culture, il avait le goût du temps pour soi, dans une époque qui paraît complètement invraisemblable aujourd'hui, où les plus modestes, les ouvriers, ceux qui travaillent, qui n'avaient que leur force de travail, n'avaient droit à rien. Et une des révolutions culturelles, au-delà des progrès sociaux, c'est effectivement le droit au loisir, le droit au congé payé. Et les lettres qu'il reçoit pendant l'été 36 sont formidablement émouvantes. C'est-à-dire des gens qui expliquent à Léon Blum « Merci, monsieur le président du Conseil, grâce à vous, j'ai vu la mer pour la première fois, grâce à vous, j'ai pu m'arrêter, grâce à vous, j'ai pu souffler ». Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas quelqu'un de la bourgeoisie qui, dans une logique de pouvoir, va être un haut responsable socialiste et l'exercer. Pour lui, ce qui comptait pour lui et les valeurs qui comptaient pour lui, le rôle du politique, c'était de les faire partager à tous. Et ça, c'est très important. Et c'est probablement dans l'histoire de la gauche une marque qui lui est personnelle.
Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Noël Jeannonet ?
Tout à fait. Si on se reporte vers le XXe siècle, il y a deux grands moments symboliques de cette avancée vers plus d'égalité sociale, moins d'injustice. C'est 1936 et c'est 1945, après, comme un effet de la libération, effet heureux des années sinistres que l'on venait de parcourir. Vous me permettrez d'ajouter une précision, je ne voudrais pas que ce que j'ai dit tout à l'heure soit mal compris quand j'ai parlé de la stratégie de la position de Léon Blum par rapport à la stratégie française. Ils avaient travaillé avec des généraux vainqueurs, c'est toujours dangereux, vieillissants et qui se sont trompés sur ce qu'il fallait faire. En revanche, il est faux de dire, comme la droite l'a très souvent dit, que le Front populaire aurait perdu la guerre parce que Léon Blum aurait diminué les crédits de guerre. C'était le contraire qui est vrai, c'est le contraire, et même il a été obligé de renoncer à un certain nombre de réformes sociales à cet égard. Évidemment, il avait eu la cruauté de voir la guerre d'Espagne. C'est un moment important de sa biographie.
Bien sûr.
En 1936, peu de temps après son arrivée au pouvoir, éclater avec le pronunciamento du général Franco et de voir les républicains peu à peu battus par les militaires félons. Et il a évidemment été tenté d'intervenir et beaucoup de gens à gauche ou à l'extrême gauche continuent de lui reprocher de ne pas l'avoir fait. Il faut braquer un instant l'attention là-dessus parce que c'est la rencontre entre un idéalisme et un réalisme. En réalité, il n'a pas eu le choix d'intervenir en Espagne. S'il était intervenu, il serait tombé parce que les radicaux qui étaient dans le gouvernement, sachant que les Anglais n'appuieraient pas, l'auraient fait tomber. Donc il aurait eu des mains propres, une belle âme, comme il l'a dit lui-même ensuite, mais sans effet aucun. Et par conséquent, il a dû se contenter de quelques livraisons d'armes un peu symboliques et de voir, pour sa douleur extrême, comme celle de toute la gauche et d'un certain nombre de ralliés de la littérature de droite, de voir avec un chagrin extrême la fin de cette guerre et la manière dont les républicains ont été progressivement écrasés par la barbarie de Franco et des siens.
Antoine Malamou, c'est un épisode dont on parle beaucoup dans votre famille, cette guerre d'Espagne.
On en parle, mais le fameux discours de Luna Park que Léon Blum prononce, donc Luna Park était un grand parc d'attractions qui était situé à Paris, et qu'il le prononce devant une foule de plusieurs milliers de sympathisants socialistes et de sympathisants du Front populaire pour expliquer sa prise de position de non-intervention. C'est un discours terrible, c'est un discours... Il existe en archive, on entend sa voix qui tremble en disant « Mais croyez-vous vraiment que j'ai trahi si je prends cette position ? Croyez-vous vraiment ?» Et il insiste, c'est comme une litanie. Oui, on en parle, c'est un sujet de débat, et ça a été aussi un sujet de débat entre nous. Je vous avoue que personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à accepter et admettre cette position de non-intervention. Ouais. 20 ans, 30 ans, 40 ans après, je veux dire, c'est un sujet de débat.
Je
voulais juste revenir, si je peux,
je
encore sur un point que Frédéric Salabarou évoquait tout au début, c'est cette question d'identité, parce que c'est vraiment effectivement un personnage clé de l'identité nationale française, dans la mesure où Léon Blum se présentait volontiers en utilisant trois adjectifs qu'il ramenait systématiquement, qui étaient « je suis français, juif et socialiste ». Et il va développer ce point dans un texte qui est un texte extraordinaire, qui est une des lettres qu'il écrit à son fils depuis Buchenwald, où il est détenu.
C'est le texte qui est la lettre
testament, où il explique « En tant que Français juif et socialiste, je vais peut-être disparaître et je vais peut-être être tué, exécuté par les nazis en tant qu'otage. »
C'était
Mais
le plus
voilà
probable.
Comment je vois l'avenir en tant que Français pour la France, en tant que socialiste et en tant que juif.
Et il le voyait comment, cet avenir ?
Il décrit la paix qui allait venir, et il dit que l'important sera d'œuvrer à la réconciliation des peuples entre le peuple français et le peuple allemand, et de ne pas assimiler le peuple allemand aux nazis.
Est-ce que vous m'autorisez à citer la phrase ?
Absolument,
parce que pour moi, c'est effectivement une phrase très importante. Donc c'est ce qu'il écrit à son fils en considérant qu'effectivement, bientôt, il va mourir. Et il dit « Le peuple réprouvé ressemble au peuple persécuté. Je ne veux pas de revanche, il faut que ce soit le peuple juif qui, au nom de son martyr, supplie qu'aucune condition avilissante ne pèse sur le peuple allemand. On me dit « Ils ont toujours été ainsi, ils le seront toujours. Ma réponse comme français, ma réponse comme juif, je n'accepte pas contre la théorie raciale, il n'y a pas de peuple prédestiné au mal. » Si on veut savoir ce que veut dire l'humanisme, si on veut savoir pourquoi à cet instant il fallait faire le choix de la réconciliation franco-allemande, on écoute cette phrase. Je trouve que c'est vraiment une phrase magnifique qui d'ailleurs répond
à l'appel
du 18 juin. Le général de Gaulle a raison de dire La France a perdu une bataille, n'a pas perdu la guerre. Et Léon Blum a raison de dire, à la fin de cette période de guerre, l'essentiel maintenant, c'est de ne pas se tromper de valeur. L'essentiel, c'est la réconciliation franco-allemande.
Et ce sera malheureusement, messieurs, le mot de la fin. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir accompagné pour cette émission. Frédéric Salabarou, je rappelle le titre de votre livre, Blum, le magnifique du juif, belle époque aux leaders socialistes, aux éditions de l'Observatoire. Jean-Noël Jeannonet, Le rocher de Sustaine, mémoire 1942-1982, aux éditions du Seuil. Merci également infiniment à vous, Antoine Malamou, arrière-petit-fils de Léon Blum, de nous avoir accompagnés ce soir sur Europe pour cette émission consacrée à votre arrière-grand-père. Merci à tous les trois.